Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée d'études consacrée à l'actualité de la recherche que nous organisons maintenant depuis plusieurs années avec l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Nous sommes très attachés à ce partenariat qui nous permet de valoriser nos études, de les faire connaître à l'ensemble de la profession. Ce n'est pas la seule façon de les faire connaître, mais c'est l'une des façons de les faire connaître. Et qui nous donne aussi l'occasion de rendre visibles des travaux d'élèves conservateurs en fin de cursus. Je précise qu'il s'agit cette année de 3 conservatrices qui seront invitées à présenter leur mémoire de fin d'études. Je suis également heureuse de signaler un petit changement cette année, puisque les résultats des enquêtes réalisées à la BPI seront articulés avec les résultats des enquêtes produites à la BNF, notamment l'enquête qui a lieu sur le Haut-Jardin, ce qui nous permettra de nous décentrer et d'avoir une vision plus globale en ce qui concerne les évolutions des usages dans les bibliothèques nationales que nous pourrons mettre en regard des établissements de lecture publique. L'année 2017 a été particulièrement riche pour la BPI, puisque la bibliothèque avec le Centre Pompidou a fêté ses 40 ans. De 1977 à 2017, la BPI a enregistré plus de 113 millions de visites. Je vous laisse imaginer le nombre de documents consultés et les impacts associés à cette fréquentation. Un aperçu de ces impacts vous sera donné à travers le dispositif Cinémathon, qui sera présenté en fin de matinée, qui a donné lieu pendant le week-end festif des 40 ans, puisque nous avons eu en février dernier un week-end festif avec le public, à une cabine qui était prévue où des usagers pouvaient venir parler de leur rapport à la BPI. Une enquête de notoriété conduite par le Crédoc sur l'ensemble du territoire français a montré fin 2017 que 30% des Français âgés de 15 ans et plus déclaraient connaître la BPI. 8% déclaraient l'avoir fréquentée au cours de leur vie, ce qui représente 4,4 millions de personnes. Les chargés d'études du service études et recherches de la bibliothèque, dont je salue particulièrement Christophe Evans, le chef de service, reviendront sur ces questions et sur les données les plus récentes qui concernent les publics, données quantitatives et données qualitatives. Un mot peut-être à propos de l'une de nos manifestations culturelles que nous avons réalisées en 17-18, l'exposition Jean Echenoz, qui a donc eu lieu entre novembre 17 et mars 18. 8% des personnes interrogées dans notre enquête de public, donc celle qui concerne les usagers de la BPI, hein, pas celle du Crédoc, pas celle dont je viens de vous parler juste avant, donc 8% des personnes interrogées dans notre enquête de public d'avril 2018 déclarent l'avoir fréquentée. C'est presque une personne sur 10, ce qui témoigne là encore de l'impact de ce type de proposition sur nos usagers, sachant qu'on ne compte pas ici les visiteurs du Centre Pompidou, puisque vous savez qu'au moment de l'expo, nous avons une entrée particulière pour les visiteurs du Centre Pompidou, mais ceux-là n'ont pas été interrogés. L'ensemble des données collectées à travers nos enquêtes permet, comme vous le verrez, de mesurer régulièrement et précisément les changements du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Changement d'usage, changement de public, l'arrivée du numérique, l'arrivée de la Wi-Fi, vous verrez tout ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est quelque chose de très important, puisque ça nous permet de voir quels ont été les impacts de la bibliothèque depuis la rénovation précédente, puisque vous savez qu'en 2000, la BPI, comme le centre d'ailleurs, a connu une rénovation complète. La BPI va entrer dans une nouvelle phase de travaux dès l'année prochaine, à partir de mars 2019. Nous allons, et c'est une première pour nous, accompagner cette phase avec la mise en place d'un groupe témoin afin d'associer un petit groupe d'usagers à notre projet. Il faut savoir que nous n'avons pas réalisé, comme certaines bibliothèques ont pu le faire, de projets collaboratifs avec les usagers. Le projet de la BPI a démarré, alors suivant les cas, en 2008, en 2010, en 2012. Les crédits sont arrivés en 2014, en tout cas, sur ce projet. Donc, le projet est maintenant court depuis un certain temps. Les usagers n'ont pas été à l'origine consulté sur le projet, mais on va constituer un groupe pour qu'il puisse nous accompagner pendant cette année qui est décisive, bien sûr en termes d'architecture, mais aussi en termes de services offerts. Nous aurons peut-être l'an prochain l'occasion de revenir sur ce dispositif. Nous devrions également être en mesure pour la prochaine édition de revenir sur deux programmes de recherche entamés ou en voie de commencer, réalisé avec le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, l'enquête, donc le premier programme, l'enquête sur la présence des bibliothèques dans les quartiers prioritaires de la ville, et le second, la recherche sur la valeur économique des bibliothèques, troisième chantier de l'enquête nationale sur les impacts des bibliothèques, dont il sera question en début d'après-midi, avec les résultats du premier volet, conduit par l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble, que nous serons heureux de vous présenter et qui vient tout juste d'être communiqué au récent congrès de l'ABF. Voilà, je vous souhaite une excellente journée d'études et je passe la parole au directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, Yves Alix.
Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier la BPI, sa directrice, son équipe, l'équipe du service études et recherches, pour l'accueil et l'organisation de cette journée qui était devenue depuis quelques années un rendez-vous régulier et apprécié de tous, je pense. C'est l'occasion de faire le point sur les travaux de recherche qui sont initiés ou accompagnés par nos deux établissements, lesquels, comme l'a dit Christine Carrier il y a un instant, sont liés par des liens forts, des liens étroits, avec une convention de partenariat, et la publication conjointe d'un volume annuel dans la collection papier des presses de l'ENSIB, donc un volume donc d'une sous-collection, en quelque sorte, papier BPI, où nous publions chaque année donc un volume papier qui trouve son pendant en numérique donc dans les éditions de la BPI. Le sujet d'aujourd'hui, l'observation des publics, l'analyse des publics, est un sujet central que l'on va retrouver dans la formation comme dans la recherche. Je vais en parler dans quelques instants. Je ne vais pas anticiper sur le programme, mais je vais essayer d'éviter les généralités sur le public qui ne vous apprendraient rien. Je dirais seulement que pour moi, c'est une question qui semble arriver à maturité. On ne la traite plus comme il y a 10 ans, heureusement, et la maturité, selon moi, c'est le fait que nous acceptons, nous, professionnels des bibliothèques, de considérer les publics tels qu'ils sont. Le public idéal semble avoir disparu du paysage, et du moins, je l'espère. Pour l'ENSIB, je le disais, la question du public se retrouve aussi bien dans les contenus de formation, les programmes de stage, les mémoires d'études, que dans la recherche proprement dite et la valorisation de cette recherche. Pour brosser le paysage, je vais donc très brièvement vous présenter l'activité de recherche de l'ENSIB et on retrouvera cet après-midi 3 élèves qui présenteront leur travail avec le concours et l'animation d'André-Pierre Sirène donc, qui sera avec elle. Donc au moins il y aura un représentant de la gente masculine dans cette présentation essentiellement féminine. Je vais vous donner quelques exemples de cette valorisation, de ce que nous pouvons produire aussi autour de la connaissance des publics, de l'accueil des publics, de l'impact des bibliothèques, comme le disait Christine il y a un instant. On pourra y revenir avec les interventions donc, de Colline Gossignac, de Mathilde Laurie-Régnaud et de Mathilde Herrero, donc 3 élèves conservatrices de la promotion DCB 26, qui la promotion Nina Simone, qui termine sa scolarité dans quelques jours et qui a appris les agentes ont appris leur affectation hier soir. Donc elles savent où le 1er juillet, elles vont effectivement occuper leur premier poste. Alors la recherche à l'ENSIB, comment la présenter ? L'ENSIB, c'est un établissement qui a vu passer en 60 ans, puisque nous sommes plus vieux que la BPI, beaucoup moins de monde que la BPI, évidemment. C'est un établissement de formation de petite taille, donc c'est un établissement de recherche nécessairement de petite taille, et qui n'est un établissement de recherche que depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis que le statut de l'école a vraiment changé. Toutefois, dans le contrat que l'école passe avec l'État, la recherche a une place déterminante. Un des axes stratégiques du contrat, c'est donner une nouvelle impulsion à la recherche. C'est ce que le ministère souhaite pour qu'effectivement la recherche faite dans les champs et les périmètres de l'école puisse avoir une visibilité plus large. Alors nous profitons du fait que nous sommes une école nationale, que nous sommes un carrefour de la profession, que nous sommes un centre de ressources, que nos formations sont des formations qui peuvent déboucher sur de la recherche ou qui peuvent comprendre des exercices de recherche appliqués, comme les mémoires d'études et de recherche des élèves conservateurs. Nous souffrons par ailleurs d'un certain handicap, c'est-à-dire d'une communauté réduite, d'une faible visibilité due à notre petite taille et d'une difficulté à fédérer cette recherche, puisqu'en fait, elle part essentiellement dans deux directions. Je schématise. La première direction, c'est les sciences de l'information. C'est dans le nom de l'école, sciences de l'information. Donc, sciences de l'information et des bibliothèques, sciences de l'information et de la communication. Donc, d'un côté, plutôt les technologies intellectuelles et les bibliothèques. De l'autre côté, plutôt les médias. Mais aussi l'histoire du livre, l'histoire des bibliothèques, l'histoire aujourd'hui des médias, de l'audiovisuel, de l'archive, la bibliographie matérielle, les bibliothèques patrimoniales et la numérisation, la valorisation du patrimoine. Donc, vous voyez, on a deux directions qui ne sont pas opposées, mais qui ne sont pas les mêmes et qui, en fait, suscitent des programmes de recherche ou des intentions de recherche qui ne sont pas nécessairement fédératrices, donc où lesquelles il faut trouver effectivement des liens entre les différents programmes. Alors, les outils de cette recherche à l'INSIP, c'est d'abord deux équipes d'accueil qui sont dans l'établissement. Il y a d'abord une équipe qui n'est pas propre à l'établissement, qui est une équipe lyonnaise, ELICO, équipe lyonnaise en sens de l'information et de la communication, dont la tutelle est partagée entre 5 établissements lyonnais. Et puis, il y a le centre Gabriel Naudet, qui a été créé à l'INSIP, qui est une équipe d'accueil entièrement soutenue par l'INSIP, et dont l'objectif est de travailler essentiellement sur l'histoire du livre, l'histoire des bibliothèques, l'histoire des manifestations culturelles et l'histoire culturelle également. Nous avons d'autres outils, comme l'Institut d'histoire du livre, qui est une association pas seulement lyonnaise, qui regroupe plusieurs établissements lyonnais, comme la Bibliothèque municipale de Lyon, ou le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, mais aussi l'École normale supérieure de Lyon, l'ENSIB et l'École des chartes. Nous avons des manifestations que vous connaissez, comme la Biennale du numérique, qui est effectivement aussi un rendez-vous donc tous les deux ans pour faire le point sur la recherche sur le numérique. On a également les séminaires des chercheurs. Alors, les publications de l'ENSIB sont un bon moyen, effectivement, de rendre visible cette recherche. La lettre annuelle de la recherche, la revue de l'ENSIB qui va changer, c'est annoncé. Nous espérons en faire une revue scientifique de très bon niveau dans quelques mois. Je vous signale, si vous ne le connaissez pas, également un carnet hypothèse qui est piloté par l'ENSIB avec quelques collègues extérieurs, qui s'appelle DLIS, Digital Library and Science. Également le BBF, que bien sûr vous connaissez, et les presses de l'ENSIB, qui aujourd'hui ont, on peut le dire, au moins 4 collections, voire 5. Donc, les collections que vous connaissez, qui ont été mises en œuvre en 2008, la collection papier, qui est justement, effectivement, la collection avec laquelle nous diffusons les travaux de recherche des enseignants-chercheurs de l'ENSIB et des enseignants-chercheurs qui travaillent avec nous, la collection boîte à outils, qui est beaucoup plus pratique, depuis beaucoup moins de temps, la collection La Numérique, qui est dirigée par Muriel Amar, ici présente, et qui donc a la particularité de proposer des ouvrages en numérique et entièrement gratuits. Depuis quelques semaines, nous ouvrons une nouvelle collection qui s'appelle Cas d'école, que nous faisons avec un éditeur privé qui est les éditions des Cendres, et qui va être présenté sur le site dans quelques années. Et le cinquième, en quelque sorte, c'est la collection que nous faisons avec la BPI. Donc tout ça, c'est la valorisation d'une recherche qui est produite, et c'est peut-être, à mon avis, l'originalité la plus intéressante, en notre cas, qui est produite à la fois par des enseignants-chercheurs, alors ceux qui sont attachés à l'école et à ces deux équipes d'accueil, mais éventuellement à d'autres labos de recherche, et ceux qui travaillent avec nous régulièrement, dans des formats qui peuvent être très divers, les étudiants de master, hein, qui dans le cadre de leur master 2 font un mémoire de recherche, et qui pour certains d'entre eux, pas un très grand nombre, mais pour certains d'entre eux, souhaitent continuer dans de la recherche, donc effectivement une inscription en doctorat, un doctorat avec une. Alors l'INSIB n'a pas d'école doctorale, mais nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'Université de Lyon, en lien avec les écoles doctorales du territoire. Et puis, le troisième élément de production, ce sont les élèves conservateurs, donc dans le cadre de leur scolarité, puisque leur scolarité comporte un mémoire d'études et de recherche qui compte beaucoup dans la note finale et donc dans l'évaluation et qui, comme vous le savez, effectivement, est un travail qui peut en fait avoir un intérêt bien au-delà de la formation de l'élève conservateur ou de l'élève conservatrice, un intérêt pour la profession. Hein. On peut tous citer des mémoires qui aujourd'hui encore sont des instruments de référence, hein, ou des jalons dans notre réflexion professionnelle. Pour terminer, je dirais que donc nous avons également aujourd'hui nous avons avancé dans des projets de recherche qui sont plus ambitieux, mais évidemment qu'on ne peut pas porter seul, qui sont des projets de recherche soutenus par l'ANR ou soutenus par l'Union européenne, comme le projet Hyperathlète, qui est un projet qui a été lancé au début de l'année, qui vise à faire donc un outil de navigation dans le traité de documentation de Paul Athlète. C'est vraiment un projet très intéressant, très excitant, très ambitieux et tout à fait européen. Un autre projet que je peux citer, c'est l'abécédaire des mondes lettrés, qui a été créé à l'initiative de Christian Jacob et qui est en ligne. Vous pouvez aller taper abécédaire des mondes lettrés, vous trouverez effectivement, c'est là aussi un programme de navigation tout à fait intéressant. Et puis nous avons travaillé ces dernières années avec des partenaires, et en particulier avec les bibliothèques de Grenoble, avec aussi l'Observatoire des pratiques culturelles, on en parlera cet après-midi, mais avec les bibliothèques de Grenoble pour analyser effectivement les comportements des publics et le profil des publics de la bibliothèque numérique à Grenoble. Et je vous signale que vous pouvez en trouver une trace dans un volume qui a été, enfin une brochure qui a été mise en ligne récemment, Bibook 2017, hein, effectivement, qui fait le point, qui est le baromètre 2017 du prêt numérique en bibliothèque à Grenoble. Voilà. Et donc le dernier, ce sont les mémoires DCB. J'y reviens parce qu'effectivement, c'est à mon avis ce que nous apportons aujourd'hui, non pas à la recherche vu au sens le plus large, mais disons, à la recherche professionnelle, de plus intéressant qu'il ne faut pas perdre. Nous sommes en cours de refonte de la formation des conservateurs des bibliothèques. C'est vraiment une réforme de longue haleine, hein, qui a été lancée à partir de 2015, après que les conservateurs territoriaux de bibliothèques donc, ont cessé d'être formés à l'INSIB pour être formés à l'INET. Donc nous avons repensé l'ensemble de nos contenus de formation. Mais je pense que, et nous, donc dans les discussions, nous sommes arrivés à un consensus sur le fait que même si on en changeait le format, il fallait continuer d'encourager les élèves conservateurs qui vont ensuite entrer dans la profession à avoir ce lien avec la recherche qui est le mémoire d'études et de recherche, qui est d'abord effectivement un bon exercice de travail de recherche et qui peut ensuite aboutir sur d'autres travaux. Je rappelle que les conservateurs des bibliothèques sont le personnel scientifique des bibliothèques, donc ils ont vocation à faire de la recherche, et que par ailleurs, c'est un apport à l'ensemble de la communauté professionnelle. Et à cet égard, bon, nous travaillons pour l'ensemble de ces communautés et évidemment ensuite pour l'ensemble des publics. Voilà, donc excusez-moi d'avoir été un petit peu long sur cette présentation, mais ça permet effectivement de bien cadrer le paysage et donc de savoir dans quel cadre l'ENSIB, avec la complicité de la BPI, donc, travaille sur, dans ces directions sur ces sujets de recherche. Voilà, donc maintenant je ne sais pas qui, c'est Christophe. Donc on donne la parole à Christophe pour le premier épisode de la journée.